Je vous rappelais tout à l'heure brièvement la dernière étude qu'on a eue. Vous avez dit que ce qu'on étudierait serait le problème de la rivalité qu'il y a eu entre Ésaü et Jacob, qui est à deux niveaux. Et le premier thème que vous allez étudier, c'est la substitution de bénédictions d'Ésaü à Jacob. Vous vous rappelez ça? Mais ça vous a annoncé, okay. Alors, vous avez demandé de préparer les deux textes concernant la bénédiction. Le premier se trouve au chapitre 27, verset 27. Et le deuxième se trouve au chapitre 28, verset 4. Est-ce que c'est bien ça? Bon, je ne demande pas si vous avez eu le temps de préparer ça, je suis persuadé que vous n'avez pas eu le temps. Alors, pourquoi vous induire en top? Alors, je vous rappelle brièvement le sujet où nous sommes arrivés. Et nous avons vu qu'après la première sélection d'identité qui fait que Ishmaël a été séparé de Isaac, je reviens par là. Alors, la suite des engendrements va passer par Isaac et Rebecca. Et la Torah nous enseigne, c'est le début de la paracha de Toavot, qu'il y a une difficulté très grande pour cette suite des engendrements. Le terme qu'on emploie en français n'est pas très exact, je vous dirai pourquoi. Et que tout se passe comme si il y a une impasse de stérilité qui bloque cette suite des engendrements. Les gens avaient vu précédemment que pour que Sarah engendre Isaac, ce n'était pas facile. Et nous avons appris pourquoi, je ne vais pas y revenir. Mais là, la manière dont le texte décrit cette impasse de stérilité, entre guillemets, au moment de la suite des engendrements à partir d'Isaac et de Rivka, est beaucoup plus fort, comme s'il y avait une impossibilité radicale. Alors, je vais schématiser ce que Grand Père nous enseigne à propos de ces textes, mais que vous les étudiez par vous-même. Donc, il s'agit du début de la majeure et de la droite. C'est que l'enfant qui est attendu, fils d'Isaac et de Rebecca, aurait dû être a priori Israël. On ne sait pas a priori, à l'avance, que ce sont deux jumeaux qui vont naître et que va commencer une rivalité qui va être extrêmement difficile pour Israël jusqu'à notre temps, entre Ésaü, son identité et sa lignée d'un côté, et d'autre part, Jacob, qui recevra le nom d'Israël et qui fondera la nation d'Israël. Et donc, je reviens sur ce point, retenez-le bien. Et d'ailleurs, je me réfère au principe de lecture que je vous ai sollicité, pour bien comprendre le déroulement du récit, bien qu'on est censé savoir ce qui se passe dans la suite, parce qu'on a déjà lu le texte, et il faut étudier chaque verset, sans tenir compte de ce qu'on sait de la suite, tout en le sachant. C'est pas simple, mais il faut faire cet effort. Alors, nous sommes tellement familiers à cet enseignement de la Torah que Isaac et Rebecca, après toutes les difficultés qu'on va décrire, ont eu deux jumeaux, que nous croyons que ça allait de soi, que c'était inévitable, nécessaire, mais a priori, ce n'est pas du tout, parce qu'il y a deux jumeaux. D'ailleurs, la Torah décrit l'étonnement de Rebecca lorsqu'il lui a annoncé qu'elle porte en son sein deux jumeaux. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, a priori, de façon très simplifiée, après le tzaddik qu'est Abraham, le tzaddik de la Midat HaChesed, qui en fin de compte engendre le tzaddik de la Midat HaDin, Yitzhak, alors le troisième tzaddik devait être d'emblée Israël, celui qui ferait l'unité entre la Midat HaChesed et la Midat HaDin. C'est clair jusque-là. Hein? Nous allons voir quelque chose dans ce compliqué infiniment. Je vais les schématiser. Pour vous aider à pénétrer dans le sujet. Et la Torah nous explique pourquoi. C'est que Rivka porte en elle cette lignée araméenne, et c'est de laquelle Abraham s'est dégagé, et c'est indiqué par le fait que le verset que je vous citais, le Bilal Pachat Odo, pour rappeler l'identité de Rivka, accumule dans un même verset plusieurs fois l'adjectif araméen. Donc vous allez prendre ce premier verset avec moi. Début de la brache à ce bout. « êtes au chapitre 25, si je me souviens bien. Café. Chapitre 25, verset 2. Verset 20. Alors, prenez tous deux, café, 25, café, verset 20. Et vous y êtes, vous avez lu sur les yeux? Donc, alors je vais verser. Vaïli, Yitzhak et Isaac étaient, sous-entendu, âgés, Ben Albaïm Shana, de 40 ans, Bekarto et Rivka, lorsqu'il prit, sous-entendu pour femme, Rivka, Bat Betuel, fille de Betuel, Arami, l'Araméen, Mi Padan Aram, de Padan Aram, Achot Lavan, sœur de Lavan, Arami, l'Araméen, Lorish. Et tout, du point de vue de l'information pure et simple, tous ces détails de l'état civil, disons, d'identité, nous sont connus. Nous savons que Isaac avait pris pour femme Rivka. Et nous savons que Rivka était la fille de Betuel. Nous savons que Betuel était araméen. Betuel était le fils de qui? Betuel était le fils de qui? Non, le père de Laban. Mais le fils de qui? Le frère d'Abraham, qui s'appelait plus fort qu'on s'entend. D'ailleurs, vous avez rien dit, vous pouvez rien entendre. Hein? Terar, c'est le père d'Abraham. Vous connaissez l'histoire de Saint-Louis, je suppose. Mais d'Abraham, vous ne connaissez pas. Alors, comment s'appelle le frère d'Abraham? Quelles sont vos lectures préférées? Les plus Dieu. Nahor, ça ne vous dit rien? Alors, je reprends que tous ces détails nous sont connus, que Betuel est araméen, que l'endroit où ils se sont installés en entrant en Eretz Israël avec Abraham, c'est Padan Aram, qu'on appelle aussi dans d'autres contextes Aram Naharaim, Aram toujours, et que Rivka est la sœur de Laban, donc le fils de Betuel, petit-fils de Nahor, c'est clair, et qu'il est araméen. Alors oui, cette accumulation de désignations araméen, 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 c'est pour nous faire comprendre pourquoi il y a cette impasse des uns et des autres. Parce que, bien que Rivka est une tzadekette, tzadekette c'est le féminin de tzadik, elle porte en elle comme arrière-plan génétique, si j'ose dire, je ne dis pas biologique, mais c'est plus important que ça du point de vue de l'identité d'une personne. Au-delà du corps biologique comme véhicule, il y a une manière d'être qu'on approche par le psychisme, par la psychologie, mais une manière d'être de la personne qui a une histoire. Chacun est un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, et ça remonte au premier homme. Alors cette lignée-là, des Hébreux devenus araméens, cristallise son identité araméenne dans le refus de redevenir hébreu. Par miracle, Rivka s'en est dégagée, mais il y a une sorte d'hérédité araméenne qui suit les lois de l'hérédité, et vous savez que dans les lois de l'hérédité, il arrive qu'on saute une génération. Je ne sais pas si vous connaissez le vocabulaire de la génétique, il y a des caractères récessifs, et des caractères dominants. Alors, chez Rivka, le caractère araméen est récessif, mais il est dominant dans tout son environnement, et ça la traverse. Et par conséquent, Rivka, bien que tzadeket, est appelée tzadik ben Racha. Elle est tzadik, fils de Racha. Et donc, ça la traverse, et ça risque de faire que le fils d'Isaac et de Rivka soit ramé. Est-ce que c'est clair? Peut-être qu'il est le piège d'une tentation d'identité araméenne. Et c'est clair ce que j'ai dit là. Okay. Mais d'autre part, Isaac, lui, est tzadik, résultat d'une sélection d'identité qu'il a complètement purifiée. Isaac est appelé, par Rachid, vous verrez Rachid, c'est le tzadik Rachid. Isaac est appelé tzadik ben tzadik, alors que Rivka est tzadik ben Racha. Les deux ont prié pour que cet enfant naisse quand même. Elle, Midrash cite un Midrash qui dit la prière du tzadik fils de tzadik est plus forte que la prière du tzadik fils de Racha. Qui est le tzadik fils de tzadik? Ici, c'est Isaac. Et Isaac priait pour que Rivka ait quand même un fils, il prend le risque. Alors que Rivka a prié pour que Isaac ait quand même un fils. Mais un fils d'Isaac, c'est facile. Un fils d'Isaac et de Rivka, tu n'aimes pas, parce que ça risque d'être un monstre. Pourquoi ? Parce qu'en tant que fils d'Isaac, il serait totalement sadique, mais en tant que fils de Rivka, il risque d'être totalement racha. Alors imaginez cette espèce d'identité monstrueuse qui serait à la fois sadique et racha. Donc, impasse. Allez, c'est clair jusque-là ? Top. Remarquez, ici la Torah nous raconte, dans un cas exemplaire, exceptionnel, le cas du tzaddik, ce qu'est la nature humaine en général. C'est pourquoi nous sommes renvoyés avec le problème de cette identité à la troisième génération à l'identité humaine profonde. Puisque c'est Jacob devenant Israël qui, en fin de compte, va continuer l'histoire du premier homme. Toutes les autres lignées sont rentrées dans des impasses. Ça passe par Jacob qui deviendra Israël. Eh bien, c'est que, comme nous l'apprenons précédemment, l'homme est créé avec deux tendances. La tendance au bien et la tendance au mal. Ça veut dire que quiconque est finalement, en quoi que ce soit, un petit peu comme ça, un peu sadique, un peu rachat. Mais ici, l'être qu'on attend, Israël, a priori, serait totalement sadique, totalement rachat, un monstre. Alors Dieu empêche cet enfant. Voilà pourquoi il y a un pas de stérilité. C'est clair jusque-là ? Ouais. Alors, pour que les engendrements puissent quand même se faire, étant donné, ça nous est signalé au début dans ces versets-là, que les deux, vous l'avez au verset 21, les deux prient quand même. Et c'est la première fois que la Torah raconte qu'on a prié pour qu'un enfant naisse. Par exemple, si vous vous référez, à la naissance d'Isaac, la Torah raconte à quel point il a été attendu, c'était difficile. Mais ne nous dit pas que Sarah et Abraham ont prié pour Isaac. Okay? Tandis que là, la Torah nous dit, verset 21, que tant Isaac et Rivka ont prié pour que quand même cet enfant naisse. Je vous rappelle cette problématique de cette prière. Isaac priait pour que Rivka ait quand même un enfant, et Rivka priait pour que Isaac ait quand même un enfant. Les deux ont pris le risque. Mais c'est surtout Isaac qui a pris le risque. Parce que son fils, en tant que fils d'Isaac, fils d'Abraham, sont sadiques. Mais en tant que fils de sa mère, bien que sa mère soit une sainte, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Qu'est-ce qui risque de passer derrière ? Est-ce que c'est clair ? Donc, vous verrez d'ailleurs par la suite, dans la suite du texte, que Rivka préfère Jacob parce qu'il est fils d'Isaac, alors que Isaac préférait Ésaü parce qu'il est fils de Rivka. Vous avez compris ce que vous dites ? Enfin, préféré cette année. Il avait une tendance de complaisance. Top. On verra ça plus tard si on y arrive. Bon. Alors finalement, la stratégie. Il faut faire arranger cette fois. On a des problèmes de corps dans ce pays. Alors, vous allez voir tout de suite que. Il y a une stratégie qui apparaît pour forcer cette impossibilité. C'est que la divinité va être divisée en deux, il y a deux jumeaux qui vont naître. Et là, nous allons avoir une étude difficile mais importante. Et ça ne veut pas dire qu'a priori, c'est un sadique et un rachat qui vont naître. Parce que s'il en est ainsi, il y aurait une prédestination, une fatalité a priori, on naîtrait sadique, on naîtrait rachat. Ce qui est absolument rejeté par la Torah, ça n'existe pas. Même un fils de tzaddik n'est pas forcément tzaddik. La vertu ne se donne pas en héritage. Ce qui se donne en héritage, c'est l'aide à la vertu, l'environnement, l'éducation, la société, qui fait que si on est situé quelque part où c'est plus facile, c'est plus facile. Et chacun est jugé au niveau de sa facilité, difficulté à être moral ou pas moral. Mais il n'y a pas d'hérédité morale. Une hérédité humaine, c'est autre chose. Et la conscience morale est neuve pour chacun. Bien sûr, le conditionnement qui l'environne aide ou défavorise. Mais au jugement, on tient compte de tout. Et est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Alors, si vous avez, je ne sais pas l'expérience, quand on lit ces textes, on a la tentation tout de suite de dire, ah bon alors, le pauvre Ésaü, il était condamné à naître rachat. Et ce Jacob-là, il était condamné. Il était prédestiné à être sadique, quel mérite il a ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Alors, tenez bien ça, tout l'enseignement de la tradition s'oppose à ça. tout est décidé par le Créateur. Tout, même la couleur de vos yeux. Sans compter la date. Sauf une chose, si vous serez tzadik ou rachat, ça dépend de vous. Voilà ce que la Torah dit. Est-ce que c'est fait ? A kol bidei shamayim, chout mirat shamayim. Réfléchissez bien à ça. Alors je sais bien que dans la mentalité de la culture occidentale, c'est difficile à atteindre ça. Parce qu'au contraire, dans cette culture occidentale, on est habitué à l'idée que les valeurs morales, les valeurs tout court, se donnent par grâce. On a la chance de naître avec une dot morale, okay, par grâce. Ça, c'est la mentalité chrétienne qui a envahi ce problème. Est-ce que c'est clair ? C'est dérivé de la mentalité grecque. Et le judaïsme a toujours réagi contre ça. Encore une fois, n'oubliez pas tout ce que je vous dis à la fin quand je vous parle d'un sujet. Il y a un conditionnement qui aide et qui défavorise. Mais en fin de compte, on est jugé de tout conditionnement connu. Et la volonté, de façon ultime, est libre de décider. Avec tous les dons que j'ai reçus, je peux décider d'être un tzadik ou racha. Le niveau de la nuance du choix, mais finalement, de ce choix, je suis responsable et ce n'est pas du tout l'hérédité qui est responsable. Voilà pourquoi je vous parle de ce problème, parce que c'est rattaché à notre sujet. Je reprends l'introduction à vos problèmes. C'est que l'être qui a failli naître, s'il était unique, serait à la fois dans le risque d'être totalement tzadik, totalement rachat, enfin monstre. Hein? Quoique toute créature humaine est un petit peu monstrueuse comme ça. Parce que toute créature humaine a une tendance au bien, une tendance au mal en même temps. Et tzatov, etc. Et tzatov, c'est ça tzadik, et tzadik, c'est ça rachat. Okay? Et alors donc, la stratégie de la Providence fait que vont être deux jumeaux. Alors, tout de suite, on est arrêté. Est-ce que ça veut dire que, pour que la difficulté soit évacuée, on va faire naître deux jumeaux, un tzadik, un rachat, avec un marlou, père. Alors, Esaü, le goy, ça c'est le rachat, et Jacob, le juif, ça c'est le tzadik, et c'est fini. Pas du tout. Tant Jacob qu'Esaü vont être libres de décider d'être tzadik ou rachat. Et le texte est bien en clair. Seulement quand on le lit avec des lunettes chrétiennes, on n'y comprend rien. Même si c'est des jumelles. Les lunettes. J'ai pas compris, mais vous avez compris. Et voilà donc jusque-là, et après j'irai plus loin. Et il y avait une question, et vous me direz si c'est clair, sinon on ne va pas voir. Okay.
Et pourquoi la tradition s'adresse, par exemple, à la personne de Jérôme en termes de marron?
Bon, ça c'est des cas d'exception, je ne dirais même pas des cas exceptionnels, je ne crois pas qu'on puisse objecter sur la règle, je pourrais répondre là-dessus, en sautant sur un cas à part. Que mon cher Rabbeinu soit en dehors de ce clal, c'est une autre histoire. Mais là, on suit ce texte, et ça concerne tout homme quel qu'il soit. Qui va se prendre pour mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, c'est à part. J'ai répondu. Et est-ce qu'il y a une autre question?
J'ai pas compris la phrase d'essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité.
Tu es arrivé en retard.
Je trouve que c'est bon.
Qui est messianique, hein, comme le Messie, avec tout le monde. Allez, pose ta question.
Non, mais c'est exactement ce que vous avez dit. Comme vous l'avez rappelé, j'ai l'impression qu'on est sûr qu'il va avoir un tzadik, un rachat.
Voilà, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que tout de suite je t'ai dit ça, c'est tout. Premièrement, parce que ça tu peux me faire confiance, j'ai dit. Premièrement, j'ai même deviné vos questions en étudiant. Premièrement, parce que toute la tradition est contre cette histoire. On ne peut pas mettre en contradiction une impression d'un élève avec l'enseignement de tous les maîtres. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Et alors, retenez cela et vous l'étudierez d'autre part. Je vous ai cité une des sources que vous étudierez, parce qu'elle est classique. Akol bide shamayim, hut mirat shamayim. Mettez bien ça dans le crâne. Et même si vous ne comprenez pas, encore, ça veut dire que vous êtes jeune. Il faut l'expérience de la vie pour comprendre, pas seulement le dictionnaire. J'ai pas fini. Je plaisante pas. On ne peut pas opposer des idées jusqu'à ce qu'on va découvrir qu'elles sont fausses, à des réalités. Et une réalité de la tradition juive, qui est connue de tous, et alors on ne peut pas objecter du dedans, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité morale. Alors c'est pour ça qu'intentionnellement j'ai formulé en schématisant pour bien poser le problème. Dès que vous avez commencé à lire ce texte, vous allez vous poser cette question de problème. C'est-à-dire, alors, s'il y a deux genoux, c'était pour qu'un naître tzadik, l'autre naître racha, la Torah est contre. Et je n'ai pas encore donné la réponse, mais je veux d'abord que vous découvriez, vous n'avez pas compris la question. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils vont être ces deux-là. En tout cas, ce que je dis, je ne connais encore, ce que je dis, c'est que la Torah ne dit pas que l'un va naître tzadik et l'autre va naître racha. Parce si elle disait ça, elle se contredirait. Elle se contredirait. Toute la Torah repose sur le principe, voilà la loi, et tu es libre de l'accomplir. Tu es tzadik, ne pas l'accomplir, tu es racha. Alors si elle commence par m'enseigner qu'on est comme ça, ou tzadik ou racha, qu'est-ce que ça veut dire que je vais être jugé, alors que je n'étais pas libre? Est-ce que c'est clair? Okay, vous mettez la Torah en contradiction totale avec votre question. Alors, avant de formuler des questions de ce genre, réfléchissez, okay, que c'est tellement invraisemblable que c'est que il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a deux genres de questions. Je dis ça pour économiser du temps. Il y a deux genres de questions. Il y a des questions d'ignorance et des questions d'objection. Une question d'objection doit être fondée. Une question d'ignorance, on attend la fin du cours et on voit si on n'a pas mieux compris. T'as compris ? Ça, c'est pour gagner du temps. C'est clair ? Et en général, c'est des questions d'ignorance. Et je vais vous dire, c'est pas de votre faute. C'est parce que vous parlez français. C'est pas que le français est une langue fausse, le français est une langue française. Mais ça, c'est des textes hébreux. Très souvent, des fausses questions viennent, jusque dans votre tête, vous traduisez avec des concepts français. C'est-à-dire latin, c'est-à-dire goy, païen. On ne peut pas manier la pensée juive avec une langue étrangère. Et c'est ça qu'on fait. C'est de la même difficulté. Vous avez pensé ces objections en philosophie générale de style français. Nous, on est dans la Torah, on n'est pas dans. C'est compris ? Alors, gagnez du temps. J'espère que j'ai déjà donné la design. Est-ce qu'il y a une autre question sur le sujet ? Je n'ai pas encore répondu. Juste que vous compreniez cela. A priori, ce n'est pas possible que la Torah nous ait dit un va naître tzadik, l'autre va être racha. Comme je sais, vous avez sûrement entendu, je ne sais pas où, des sermons, dans le Torah, on va savoir où. Le contraire, ça vous choque. Mais lisez les textes. C'est clair ? Je suis persuadé que vous avez dû entendre ces choses, okay, que Ésaü est né racha, du ventre de sa mère. Que Jacob est né tzadik, du ventre de sa mère. Shkuyot, la Torah n'a jamais dit ça. Elle ne peut pas dire ça, elle se contredirait. Vous avez compris ce que je veux dire ? Oui. Ça s'est évanoui.
Non, mais vous avez
parlé de la compréhension. Oui, j'ai compris. Donc, je ne sais plus qui disait, j'ai oublié si c'est Bossuet ou quelqu'un du XIXe siècle. 100 fois sur le métier, remettez votre culture française. Vous avez même oublié votre culture française. Donc, rendez-vous bien compte, c'est normal qu'à chaque génération, que pour chacun, les questions éternelles se posent. Mais n'oubliez pas qu'elles se sont déjà posées depuis 6000 ans. Hein, on sait de quoi il s'agit. Vous avez compris ce que je veux dire ? Vous n'avez pas ridicule.
Okay.
T'as vu, ça commence. Quoi ? C'est un pérouge, c'est la Torah elle-même.
Oui.
Et où est-ce que c'est écrit dans ce verset qu'une nation serait de sa détermination, c'est Rachel à plus. Ah, c'est toi qui résonne. Laissez les tambours résonner. Vous, que tu dis. T'as compris ? Je vois que ça marche pas. On attendait autre chose. De plus profond, mais tu as dû choquer sur le texte. À quoi tu pensais ? Tu pensais sûrement notre midrash. Si c'est un midrash, attends une minute. Tu étais dans sa question ? Il y a un midrash qui dit que quand quelqu'un s'approchait d'un animal. Il y a fait, c'est ça que tu pensais. Pourquoi tu l'as pas dit? C'est juste que je sais. Oui, alors si.
Donc,
je sais pourquoi tu as eu peur. À vrai dire, si.
On ne veut pas, donc c'est stupide de se poser la question.
Attends, cite le midrash.
Et quand Ricard passait à côté d'un être midrash, il y avait une fois qu'il poussait pour sortir un
voilà.
Premier avec lui. Et tandis que quand on passait à côté
il y avait une discothèque. C'est Esaü qui voulait danser. Et alors, ça veut dire que. Quoi?
Non,
exploite ça, on est en pleine nature.
Ça ne veut pas nécessairement dire, c'est une question que je vous pose, ouais. Qu'il y ait un goy qui fait de la blabla soit nécessairement attaché à la mort.
Ah, tu vois, tu as bien fait de poser la question, c'est peut-être qu'il commence. Okay? Je veux dire, je vais vous citer ce mirage qui est authentique. Okay? Et je veux dire sur quel verset il est. D'ailleurs, ce verset est peut-être fait allusion. Vous allez prendre le texte, chapitre 25, c'est le verset 23. Lorsque Rivka a demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle sent que ça se dispute dans son sein, okay, alors Dieu répond. Le verset n'est pas facile, mais je vais le traduire et ensuite je reviens en Mirach. Voyons Mirachem là, et Dieu lui dit Shne Goyim Bevitner. Il y aura deux nations en ton sein. Et remarquez, le mot de Goïm est écrit de façon bizarre. Okay? Il n'y a pas écrit avec un vav, il y a écrit avec deux U. C'est encore une autre histoire. Ushne Leumim est deux peuples, mais Me'ahir, depuis tes entrailles, il paraît doux se séparera. Ul'om mili'om yemat. Et un peuple triomphera de l'autre. Vera Yahavot Tsaïr, et le plus nombreux servira ou asservira. Zahir le plus jeune. Nombreux et jeunes, ça ne va pas ensemble. Hein? Nombreux, on attend moins nombreux. Jeunes, on attend âgés. Okay? Vous marquez là, vous avez une définition de l'aumônier de jeunesse, de la jeunesse. Vera, Yahavot, Sabi. C'est un rabbin qui sert les jeunes. Très bien. Je reviens au sujet. Non, c'était une blague. Le Midrash, donc, qui a été cité, dit ceci. Que, oui, pour un peu approfondir s'il y a dans le niveau. Lorsqu'Ivka passait devant un métamédrage, Jacob voulait rentrer au métamédrage. Net pour à étudier la Torah. Alors quand elle passait devant un théâtre, peu importe, c'est Esaü qui voulait sortir pour aller libertiner, comme on disait au Moyen-Âge. Donc, non, pas au XVIIe siècle, les libertins, libertinage. Et alors, ça voudrait dire donc ce que j'ai repoussé tout à l'heure, que dès les entrailles, un il est tzaddik, Torah, et l'autre il est rachat, théâtre. Donc, et je veux dire, ça c'est le pshat apparent. Hein? Le pshat apparent. Et énormément d'enseignements peuvent être tirés de cette manière-là. Okay. Seulement, ça pose le problème de fond, la prédestination. Ça fait éclater toute la cohérence de la Torah. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont conçus pour être sadiques, et d'autres conçus pour être rachats. Et où est la liberté? Où est le libre arbitre? Où est le fondement de la Torah? Alors vous voyez que on ne peut pas entendre ces midrashim au niveau infantile. Il faut les apprendre, il faut les comprendre au niveau adulte. Je vais vous citer un des commentaires sur ce métrage. En passant par un autre enseignement préalable que je vais vous expliquer. Il y a une Mishnah qui dit, d'ailleurs elle est citée au début du Shulchan Aruch, « Heve az tannamer la'asot kotzol nabicha shevashana » Soit fort comme un lion, et « az tannamer » az ça veut dire c'est un mot qui veut dire fort, mais avec une nuance, qui est à nous à traduire. Az, en français, ça existe le mot. Plus que fort. Disons, vaillant. Non, vaillant, c'est gibor. Hein? Téméraire. C'est un petit peu la fontaine. Ça. mais vous avez compris l'idée. Az. Et persévérant dans le courage. Az. Mais un autre enseignement qui dit Aspanim Nageinam. Celui qui est grossier, Aspanim Nageinam, ira à l'enfer. Alors comment je peux nous demander d'être As au service de Dieu, alors qu'on enseigne que As, on va en enfer. J'ai compris. Je ne veux pas vous décrire plus, vous illustrer plus, mais vous avez, ça se rattache au problème de la fin et des moyens. Pour servir une fin bonne, prendre des moyens mauvais, c'est grossier, c'est la gasmut, la grossièreté, c'est l'immoralité. On va dire la fin justifie les moyens, c'est ça, être aspanim. Et aspanim, finalement, ça se traduit dans la vie quotidienne par l'insolence. Donc, alors on enseigne tout ça de la manière suivante, que Jacob, mais retenez bien, nous sommes pour le moment au niveau de l'équation Jacob et Esaü. Jacob ne s'appelle pas encore Israël. Et tout ce qu'il va y avoir comme conflit, rivalité entre Jacob et Esaü, c'est savoir lequel des deux est Israël. C'est clair. Et il nous faudra peut-être plusieurs cours pour arriver à maîtriser ce sujet, mais je vais commencer là, que ce soit clair dans votre pensée. Eh bien, on enseigne de la manière suivante. À propos de Lot. Déjà, à propos de Lot, la problématique a été enseignée. Lot et Abraham sont deux tzadikim. Au début, on risque de les confondre. Vous rappelez qu'on a appris ça, hein, tellement ils se ressemblent. Ils se dévoilent en fin de compte que Lot était Rachel, que Lot était Rachel. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme choix entre les deux? C'est que Lot a le courage d'être un Abraham à Sodome et Gomorrhe. Alors qu'Abraham, lui, il a le courage d'être Abraham à Jérusalem. Et vous avez compris ce que j'ai voulu exprimer par là. Qui est plus courageux? Un tzadik qui s'enferme avec les tzadikim pour ne pas être intoxiqué par les rechaïm, mais un tzadik qui a le courage d'aller chez les rechaïm pour être le témoin de la vérité là où c'est le plus impudent. Qui est plus grand? Apparemment, on peut se demander, c'est Abraham, est-ce que l'autre? Laissez-moi parler. Il va se dévoiler a posteriori que l'autre aimait ça, alors il est allé là-bas. Okay. Mais si on lit l'histoire de Lot, dès le début, on voit que c'est ambigu. Okay. Il arrive à Sodome et Gomorre, New York. Okay. Il s'installe là-bas, ici. Ici, je suis le juge de vérité. Regardez les versets. Quand les habitants de Sodome et Gomorre vont le jeter, on dit Aechad Balagour, regarde Chapeau Tishkot. Un vient séjourner chez nous, il veut être le juge. Okay. C'est-à-dire, Lot. Je vais le définir comme ça, il serait, disons, le rabbin de Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui est plus courageux, d'être rabbin à Jérusalem ou d'être rabbin à Brooklyn? Ça, c'est l'argument des gens de Brooklyn, d'ailleurs. Là où il y a Sodome et Gomorre, c'est là qu'il faut aller. La question est de se dire, qu'est-ce que tu veux en réalité? Être la vérité à Sodome et Gomorre ou c'est que tu aimes Sodome et Gomorre? Je vais raconter une histoire chassidique pour bien faire comprendre la question. Et après, je reviendrai à Jacob et Esaü. Les chassidim ont enseigné ceci. Si tu vois quelqu'un qui est tombé dans un puits plein de boue, tu vas le laisser mourir. Tu vas descendre dans la boue le sauver. Alors voilà, quelqu'un, un héros, qui va descendre dans la boue pour sauver le pauvre qui est tombé dedans. Mais qu'est-ce qu'il veut? Sauver ou il aime la boue? Ça reste ambigu jusqu'à la posterie qui se dévoile. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Est-ce que c'est clair ce qu'il dit? Alors les chassidim m'ont enseigné, tu vois quelqu'un tomber dans la boue dans un puits, descends le sauver, mais accroche-toi à une corde là-haut. Si tu ne t'accroches pas à la corde pour remonter, c'est que ça veut dire que tu aimais la boue, alors tu es allé avec lui. Est-ce que c'est clair? Alors c'est ça l'autre. Hein? Apparemment, il va sauver Sodome et Gomorre. En réalité, il aime Sodome et Gomorre. C'est ça qui va se dévoiler. Hein? Alors on revient à Jacob et Esaü, à ton midrash. On enseigne ceci. Jacob, il ne peut pas aller au théâtre étudier la Torah. Il va au Beit HaMidrash étudier la Torah et s'enfermer. Esaü, lui, il a le courage d'aller au théâtre étudier la Torah. Alors ce Midrash, tu ne peux pas du tout l'exploiter pour dire, tu vois bien qu'Esaü était rachat et aller au théâtre. On ne sait pas. Peut-être c'est un héros. Est-ce que c'est clair? Regardez, je vous ai parlé de choses importantes. Hein? C'est-à-dire l'ambiguïté de la vocation. Okay? Pourquoi quelqu'un s'enferme dans un couvent? Pour la sainteté ou parce qu'il a peur de la rue? Réfléchissez bien à ça. Okay. Et pourquoi un autre va dans la rue? Parce qu'il aime la boue de la rue ou pour sauver les gens de la rue? D'accord? Alors ce midrash-là, tu ne peux pas le rattacher à notre problème, tic-tac, vous voyez bien, ça c'est un livre, ça c'est machin. Qui le sait? Dieu seul le sait. Ça y est, c'est clair? Alors, réfléchissez bien à ça. Quand il vous arrive, quand vous écoutez un enseignement, surtout en train d'être exposé, il vous arrive d'avoir des idées d'objections parce que vous avez entendu des choses mal intégrées, taisez-vous jusqu'à la fin du cours, sinon on perd du temps. Remarquez, vous avez appris beaucoup de choses entre temps grâce à vos fausses questions. Mais enfin, on n'est pas là pour étudier les fausses questions. Est-ce que c'est clair? Alors, je reviens au sujet. Ça me rappelle une jolie histoire goy. C'est un goy qui priait pour ne pas aller au paradis. Je me dis pourquoi? Il dit parce que là-bas il y a des curés, des vérifications. Je ne les fais pas. Il préfère aller plus loin. C'est pas faux cette histoire. On revient au moins l'abondance, parce que là, ça fait dans. Alors, c'est tout le problème de. Encore une fois, l'ambiguïté de la vocation. Et nous verrons, en fin de compte, je vous donne un peu la réponse anticipée, pour vous voyez où on va, qu'Israël, ça sera le nom de Jacob, quand Jacob sera capable aussi du génie des aigles. Tant qu'il est capable que du génie de Jacob, il s'appelle que Jacob, mais ce n'est pas Israël encore. C'est quand Jacob sera aussi capable d'être Ésaü, les deux tzadiks, qui s'appellera Israël. Bon, retenez bien. Et on revient au point de vue. Et ce conflit-là, on le vit en Israël aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent être que Jacob. Et il y a ceux qui veulent être que Ésaü. Et il y a ceux qui veulent être Jacob qui s'appelle Israël. Réfléchissez par vous-même, vous allez les identifier. Ces différents camps d'Israël. Vous avez compris ce que je veux dire? Bien. Alors donc, voilà où nous étions arrivés. Okay. C'est que nous nous confrontons à ce problème, que je reformule de nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'identité de Jacob et l'identité de Ésaü? En fin de compte, il va se dévoiler quand il était sorti de Rachat. Mon point de départ, qu'est-ce qu'ils étaient? Pas du tout sorti de Rachat, Jacob et Ésaü, mais c'est quoi? Alors vous allez prendre un verset qui va nous éclairer. Et vous allez prendre toujours au chapitre 25, le verset 27. Kabzaï. Vous y êtes? Alors je vous dis. Vaïs de l'eau à Néharim. Et les enfants grandirent. Littéralement, les jeunes gens, Néharim, grandirent. C'est-à-dire, tant qu'ils étaient enfants, on ne voyait pas la différence entre les deux. Quand ils étaient vraiment enfants. Mais quand ils ont commencé à grandir, alors la différence entre les deux va se dévoiler. Parce qu'ils étaient jumeaux. Okay? Alors, c'est clair celui-là. D'où, Vaïs de l'eau à Néharim, les enfants grandirent. Vaïs, Esav, Ish, Odea, Tsaïd, Ish, Salé. Et Ésaü devint, est devenu, un homme connaissant la chasse, un homme du champ. Et Jacob, un homme paisible, Yoshevoalim, habitant les tentes. Voilà. Alors, lorsqu'ils ont grandi, leur identité profonde se dévoile, et ils sont très différents. L'un est l'homme de la vie extérieure. Je reprends les textes, les termes employés dans le texte. Ish Yodea Tsaïd, un homme connaissant la chasse. Vous connaissez comme on dit en français, le chasseur, chassant, chassé. Okay. C'est l'homme voué à la vie matérielle, à la vie extérieure, à la vie de nature. Avec quoi qu'on peut objet, chercher à manger. Et le terme employé par la Torah est très clair, Ish Sadé, un homme du champ. Sadé, c'est à l'extérieur de la ville. La vie extérieure. Alors, je fermerai ça en disant que Ésaü dévoile une vocation de l'ordre de la vie matérielle, de la vie extérieure, de la vie de ce monde-ci. On n'a pas dit encore c'est l'état du Kourachar. Il a la vocation de la vie matérielle. Dans la société humaine, il y a deux vocations. La vocation matérielle, construire la cité, aménager la nature, toutes ces vocations humaines qui sont les métiers de l'homme, et d'autre part, la vocation spirituelle. Et c'est pourquoi tout de suite le commentaire a expliqué pour Jacob, Yoshe Waralim, habitant les temples, c'est la maison d'étude, la vie intérieure. Il est voué à l'esprit, alors que Esaü est voué à la matière. Alors retenez bien une chose, pour la Torah, ce ne sont pas mentalités philosophiques, pour la Torah, c'est Dieu qui a créé et la matière et l'esprit. Et par conséquent, c'est Dieu qui nous crée comme devant résoudre deux problèmes difficilement conciliables, mais deux problèmes qui viennent de lui, le problème de la vie extérieure et le problème de la vie intérieure. C'est clair ? Par conséquent, la difficulté de l'identité humaine, cette incapacité d'être d'emblée et l'homme de l'esprit, l'homme de la matière, va être divisé en deux. Un sera l'homme de la matière, l'autre sera l'homme de l'esprit, encore du tout parler de Tzadik ou Racha, ça va venir après. Hein? Et s'il y a solidarité entre les deux, alors le problème du monde est résolu. Parce que l'homme de l'esprit, finalement, n'est pas apte aux tâches de la matière. L'homme de la matière n'est pas apte aux tâches de l'esprit, mais les deux doivent être résolus. Alors nous faut deux hommes, un de la matière, un de l'esprit, et leur alliance, la Torah va dire plus, leur amour entre eux, tu aimeras ton prochain comme toi-même, résoudra le problème de l'homme. Et ça, comme nous le verrons par la suite, ça va être le rêve d'Isaac jusqu'au bout. Isaac va se dire, un a choisi la matière, c'est très bien, il sera béni de la matière, il partagera. L'autre a choisi l'esprit, c'est très bien, il sera béni de l'esprit, il partagera. Et le monde est sauvé. Rivka intervient, elle sait que les frères ne s'aiment pas, et elle dit, ça ne marche pas. Ça, c'est la substitution de la bénédiction qu'on verra. C'est Rivka qui intervient. Parce que la mère connaît les enfants qu'elle a conçus. Le père, il ferme les yeux. D'ailleurs, vous verrez dans le texte, Isaac ferme les yeux, toujours. Remarquez. Et alors, la mère est terrible dans son diagnostic. Elle sait que ses deux enfants ne s'aiment pas. Et que ça ne peut pas marcher comme ça. Mais je reviens au cas précédent. Et que, comme je l'ai dit une fois en d'autres termes, l'homme, c'est à la fois un corps et une âme. Faire comme si l'homme n'était que corps, c'est une illusion. Il a une âme. Et son âme ne laissera pas son corps tranquille. Faire comme si l'homme n'est qu'une âme, c'est une illusion. Et son corps ne laissera pas son âme tranquille. Tant que l'homme n'a pas résolu simultanément, enfin corollairement, les tâches du corps et les tâches de l'âme, les deux dans la voie du bien et de la vérité, le problème de la destinée humaine n'est pas résolu. Bien ? Alors comment cette personne humaine, Adam, qui est à la fois corps et âme, va s'en sortir. Dès qu'il s'occupe du corps, l'âme ne le laisse pas tranquille. Dès qu'il s'occupe de l'âme, le corps ne le laisse pas tranquille. Donc, ils ont beaucoup de tête là-derrière. Alors donc, cette stratégie de l'engendrement d'Israël, de celui qui devrait être Israël, fait que, jusqu'à la fin des temps, les deux tâches, tâches matérielles, tâches spirituelles, seront, comment dire, traitées, résolues, bien, par les deux frères jumeaux, chacun ayant une vocation différente, et s'il y a alliance entre les deux, le monde est sauvé. Alors voilà la difficulté qui apparaît maintenant. Ça, c'est le rêve d'Isaac. Et Rebecca sait que ça ne pourra pas marcher. Et vous relisez tous ces textes, hein, tous ces versets où Rebecca dit je vais être veuve des deux à la fois, hein, si le plan de Isaac n'est pas contrecarré. Parce que si Isaac va bénir Esaü de la matière, Esaü sera béni de la matière et Jacob n'aura rien de la matière. Or, pour arriver à l'esprit, il faut passer par la matière. Donc Jacob disparaît. Et Esaü est perdu. Okay. Et est-ce que c'est clair? Mais le problème est encore plus complexe. Parce qu'il va se découvrir que non seulement Esaü n'aime pas Jacob, mais Jacob n'aime pas Esaü. Vous avez remarqué ce que vous avez compris ce que je dis là? Israël, c'est autre chose. Ça, c'est un niveau autre qu'on va atteindre après. Mais tant qu'on est au niveau Jacob, l'homme de l'esprit est que ça. Esaü, l'homme de la matière est que ça, ils ne s'aiment pas entre eux et c'est réciproque. Comment un homme de la matière peut aimer un homme de l'esprit? Il ne peut être que jaloux, frustré, anticlérical. Et comment un homme de l'esprit est que ça, qui ne comprend rien aux nécessités de la matière, il va acheter le pain à la boulangerie. Mais agriculteur, Dieu préserve. Ça, c'est le kibbutz. C'est compliqué. Comment les canons de l'esprit et que ça aime l'homme de la matière. Il le haït Ésaü n'aime pas Jacob, mais Jacob le lui rend bien. Et Rivka sait ça. Alors elle dit à Isaac, minute, arrête, ok. Et elle va chercher une toute autre stratégie qu'on verra après. Substitution de bénédiction. Mais je vais lentement, vous comprenez bien le problème. Vous avez compris. En termes simples, on comprend qu'un méchant n'aime pas un juste. Mais on comprend aussi qu'un juste ne peut pas aimer un méchant. Comment est-ce qu'un juste aime un méchant, okay. Il y a cette critique.